Bonsoir. On a passé un bon Purim, Baruch HaShem, et on est en pleine histoire avec la Perse. L'Iran, c'est la Perse de l'époque. Et ce qui se passait à l'époque, et ce qui se passe aujourd'hui, quand on lit la Megillat Esther, il y a plein de questions qui se posent. Et on dit, Baruch HaShem, Lagan Cholam, Shea Asanissim, La Avotenu, Beyamim, Ahem, Bazmanazé. On remercie HaShem pour les miracles que Dieu il a fait à l'époque, Beyamim, Ahem, à cette époque de Purim. On ajoute le mot Bizmanazé dans cette époque. Il y a deux traductions dans le mot Bizmanazé. Soit Bismanazé, ça veut dire à l'époque de Adar, c'était le 14 Adar Purim à l'époque, Yamim Ahem à l'époque il y a 2500 ans, Bismanazé pendant le mois de Adar. Il y a une autre explication, et c'est pas le Pshat Mamash, mais c'est une allusion. Bismanazé, comme ça ils disent les Mefarshim, Bisman hazé à notre époque. Tout ce qui se passe dans le Chumash, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Chanukah, Purim, quand il arrive une fête, l'ancienne histoire se réveille, elle se revit. Un juif pendant Pessah, il se trompe dans l'histoire d'Yetziat Mitzrayim, le jour de Shavuot, à une matin de Torah. Chaque année, à une matin de Torah. Au ciel se réveillent les situations que nos ancêtres, ils ont vécues afin que nous les vivons de nouveau à notre époque. Shavuot, on reçoit la Torah chaque année. Et là, il y a aussi la fête de Purim. La fête de Purim, Chachamim raconte, Kippourim, le jour de Kippour, c'est Kippourim, comme Purim. Entre le jour de Yom Kippour et le jour de Purim, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Yom Kippour, c'est un jour de pardon. Et Purim, Hachem, il a pardonné aux Juifs. Les 3 jours et 3 nuits, ils ont jeûné. Et le Yom Kippour, il a débloqué les immenses miracles que Dieu il a pardonné. Le Hegel, et ça a continué le voyage du peuple juif. Et comme ça a été aussi le Purim, il a provoqué quelque chose de profond. On dit d'ailleurs à la fin de la Megillah, Kimu veKiblu aleihem baAlzaram. Kimu veKiblu, le sens, le premier sens du verset, que les Juifs, ils ont accepté sur eux, chaque année, on va festoyer le Purim. Éternellement, on va festoyer le Purim. Et le deuxième pshat que la Gemara nous dit sur Kimu veKiblu, le peuple juif a été Mekayem. Le peuple juif, il était Mekabel. Ils ont reçu sur eux ce qu'ils ont déjà reçu au Har Sinaï, ça veut dire il y a une promesse d'accomplir la Torah meilleure qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, comme ça dit la Gemara. À l'époque de Moshe Rabbeinu, les Juifs, ils ont accepté la Torah par peur. Ils étaient tellement impressionnés de ce qui s'est passé au Har Sinaï. Et à l'époque de Purim, il n'y avait pas de Har Sinaï. Il y avait quelque chose d'autre, il y avait une peur, c'est vrai. Mais après, le miracle était tellement merveilleux, ils étaient tellement impressionnés par la tournure des affaires, de ce qui s'est passé. Ils ont aimé Hachem, ils étaient heureux d'être juifs. Ils étaient heureux de s'attacher à la Torah. Quand il y a un miracle qui arrive, où quelqu'un il se croit condamné Et d'un coup, on lui sauve la vie. Plus forte raison qu'il s'agit des millions de gens qui sont en danger. Et c'est Hachem qui les tire de l'affaire. Alors ça provoque quelque chose chez les Juifs. Nous allons voir un peu plus tard dans l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui. Les choses sont beaucoup plus profondes que de ce qu'on pense à première vue. De la même façon que l'histoire de Pourim peut se lire comme un simple récit, en approfondissant l'histoire de Pourim, on voit que ce n'est pas du tout une simple histoire. On croit que c'est une histoire politique, un fait divers, comme il y en a beaucoup dans le monde. Et en observant beaucoup plus près chaque verset, chaque détail de Megillat Esther, on voit la main d'Hachem qui est derrière, qui fait que les choses ils sortent comme ils sortent. Des Hashgacha Pratit, toute l'histoire de Purim, c'est Hashgacha Pratit extraordinaire. Et nous vivons aujourd'hui aussi une histoire d'Hashgacha Pratit. La main d'Hachem, il est derrière. Mais avant de rentrer dans cette histoire et après les conséquences et les conclusions, on va d'abord essayer de comprendre un petit peu l'histoire de Purim et aussi avec les événements d'aujourd'hui. Purim, il y a deux hommes méchants, si on peut dire ainsi. Mais ce ne sont pas seulement deux hommes méchants, c'est deux courants problématiques. Un homme, il s'appelle Achashverosh, et l'autre, il s'appelle Haman. Haman, il n'était pas bien avec les Juifs. Et Achashverosh, la Megillah nous raconte que Haman, il est venu chez Achashverosh, il a dit: Il y a un peuple éparpillé parmi les nations. Leurs lois sont différentes. Ils n'appliquent pas. Haman, c'était un homme qui venait de Amalek. Il a dit à Achashverosh, il y a un peuple éparpillé parmi toutes les nations. Ils ont d'autres lois, ils n'appliquent pas les lois du roi. Vous avez aucun intérêt de laisser ce peuple vivant. Et si ça vous plaît bien, et Avdam, donnez-moi la permission de les détruire. C'est quand même une chutzpah d'un homme de vouloir détruire un peuple. Ça sort de l'ordinaire. On trouve ça pas comme ça dans le monde. Détruire un peuple. Un peuple entier détruire. Et avec quel argument? Est-ce qu'Aman, il a dit qu'il est en danger de mort? Est-ce qu'il a dit que la Perse est en danger de mort? Est-ce qu'il a dit que le peuple Amalek est en danger de mort? Ils ne font pas les lois. Ils ont d'autres lois. Achashverosh, il règne sur 127 pays. On peut bien s'imaginer depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, les lois ne sont pas les mêmes. Les comportements ne sont pas les mêmes, évidemment. Ce n'est pas une raison de vouloir détruire un peuple, homme, femme et enfant, vieillard, bébé. Ça n'existait pas dans le monde. Ça existe vis-à-vis du peuple juif. Nous, ça fait maintenant des milliers d'années, on a appris beaucoup de fois cette histoire. Mais c'est unique sur la planète. Quand on veut atteindre au peuple juif à titre de peuple, il y a tellement beaucoup de gens, d'une manière obsessive, ils parlent mal de nous. C'est pas normal. Aman, il a quelque chose contre nous. Il a un don contre nous. Haman ha-Agagi. On va bientôt expliquer ce Haman, l'origine de cette haine. Essayez de comprendre un petit peu. Mais ce qui est étonnant, étonne. Haman, il vient chez Achashverosh. Viens, monsieur Achashverosh. T'as aucun intérêt que ce peuple est vivant. Ça veut dire quoi? Un homme, il règne sur 127 pays. Il y a, je sais pas, des millions, des millions, des millions de gens. Mais quand on tue un peuple, on a moins des gens, moins de main-d'œuvre, moins des impôts. On règne sur moins des gens. Un roi, vous demandez à un homme, il est président sur 30 millions, sur 60 millions, sur 90 millions, plus qu'on est roi sur une grande population, plus on est puissant. Ça veut dire quoi? On demande à un roi d'enlever. Comment il avait la chutzpah? On vient chez le roi. Alors lui est Haman, il est de peuple Amalek, il a un don. Lui, il descend de Esav. Il y a Yaakov et Esav. Esav, il pensait que Yaakov lui a injustement pris les brachot. Il avait un conflit de famille très profond. Mais ça ne regarde pas Achashverosh. Il est de Perse, il n'y a rien à voir avec tout ça. Et pourquoi il pensait qu'Achashverosh serait d'accord? Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, qu'Achashverosh était d'accord, et tout de suite, il est d'accord. Et on dirait qu'il était même plus pressé. Haman, il a dit, je vous propose à Seret à la film qui kakesef pour apporter pour la caisse du roi. Et Achashverosh, il a répondu, kesef natun lach, va'am la sot katon be'enecha. Tu peux garder l'argent. Fais avec le peuple ce que tu veux. On te propose d'argent. Je suppose qu'Aseret Elafim qui kakesef, c'est beaucoup d'argent. On propose à un roi beaucoup d'argent et il crache sur l'argent. Où on a vu ça? On n'a jamais vu ça. Et pourquoi il crache sur l'argent? Ça veut dire qu'il était intéressé. Il avait peur que s'il va réclamer l'argent chez Haman, il va traîner. Il voulait surtout pas qu'on traîne. Le plus vite possible, débarrassement les Juifs. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils ont fait quelque chose du mal à Achashverosh, les Juifs. Nebuchadnezzar, il avait détruit le Beth Amikdash. Les Juifs sont partis en exil, en Babylonie, dans d'autres pays. Il y en a qui sont partis en Perse aussi, se sont installés. Et quand Achashverosh, il a fait le festin au début de la Megillah, la dernière semaine, il a invité tous les gens de Shushan HaBira. Et la moitié des Shushan était habitée par des Juifs. Il les a tous invités, il les a accueillis, et il leur a donné à manger, à boire. Ils étaient bien, on voit rien, on voit pas de problème entre les Juifs et Achashverosh. Et quand Haman, il dit, je veux exterminer ce peuple, il dit, vas-y, garde l'argent, fais-le le plus vite possible. Parce qu'il est arrivé à Achashverosh. Et pourquoi il fait ça? Les motivations sont évidemment pas les mêmes, mais le Maasé, ils se sont bien arrangés, ils se sont bien entendus. Bon, ça a duré 3 jours, cette entente. Entre Haman avec Achashverosh, le moment qu'ils ont écrit les lettres, ils ont travaillé ensemble, jusqu'à quel mauvais chat il est passé entre les deux. Et Achashverosh, il s'est énervé contre Haman, il a dit, pendez-le, ça a duré 3 jours. Le 13 Nissan, ils ont écrit ensemble les lettres. Et le 16 Nissan, Achashverosh, il a pendu Haman. Très bien. Alors, mais à un moment, ils étaient d'accord. Ça, il faut comprendre. Pour comprendre l'histoire de Purim et l'histoire aujourd'hui, il faut comprendre ce qui se passe ce qui se passait les dernières 40 ans en Iran. Depuis 40 ans, il y a des chefs en Iran, des chefs politiques. Ils ont monté une machine obsessionnel, il faut détruire cet État qui est au Proche-Orient à Yerushalayim, les Juifs qui sont venus d'une façon maladive, obsessionnelle, ils ont juré la perte. Tout le monde il se rappelle ce qu'était le président Ahmadinejad, combien de fois il a levé la main, il a hurlé, on va effacer, je vous jure, on va éliminer ce peuple, ce juif en Eretz, on va éliminer. Quoi? Quel est son problème? Il est en Perse? On ne le connaît pas, il ne nous connaît pas, on n'a aucun rapport avec lui. Il n'est pas un acteur de ce qui se passe en Eretz Israël. D'un coup, les Perses, ils ont pris une obsession pour les Perses. Ce mouvement, qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que ce mouvement s'est inspiré par Haman ou par Achashverosh? Par les deux? Et à Kadesh Baruch Hu derrière, il veille. Et nous allons voir, Be'ezrat Hashem, les conséquences. Aujourd'hui, on ne sait pas encore les conséquences. Avec l'aide de Dieu, que les conséquences, on ne peut qu'un petit peu imaginer ce qui est maintenant. Il y aura d'autres conséquences beaucoup plus profondes que de ce qu'on imagine aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est arrivé ici, quelque chose que ni nos parents ni nos grands-parents ils ont entendu. Il y a quelque chose qui s'est arrivé et c'est comme à l'époque de Pourim, une histoire politique, les gens y parlent et on dirait, bon, c'est rentré dans l'histoire de une histoire, un fait divers. Oh, c'est pas un fait divers. L'histoire de Pourim a transformé le peuple juif. Le peuple juif, après, il est parti en Eretz Israël. Ils ont construit un nouveau État juif qui a duré des siècles. Un chizouk extraordinaire. Le deuxième Beth Amikdash est arrivé. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu. La Gemara nous dit, Haman, et Achashverosh, à quoi il ressemble? À deux voisins. Un voisin, il avait un trou dans son jardin. Pour remplir ce trou, pour faire un gazon bien correct, droit, il fallait une tonne de terre. Le voisin, il avait un monticule, il avait une tonne de terre. Il y en a un qui a dit, j'ai un trou, il me faut une tonne. Mon voisin, il a beaucoup de terre. Je vais lui demander si je peux acheter ces terres. Ça va me coûter d'argent, mais ça serait bien qu'il me remplisse avec ça. Et le voisin, il avait ce monticule. Il a dit, j'aurais bien voulu me débarrasser de ce monticule. Mon voisin, il a un trou. Est-ce que je peux lui demander si je peux mettre la terre là-bas? Alors le voisin qui avait le trou, il vient chez l'autre, il dit, bonjour monsieur voisin, je vois que vous avez ici une tonne de terre et moi j'ai ici un trou. Est-ce que je peux acheter? Je suis d'accord à payer 10 000 euros pour vendre la terre, pour remplir mon trou. L'autre, il a entendu ça, il a dit, waouh, il veut me payer pour la terre, mais moi depuis longtemps, je voulais me débarrasser. Mais ça tombe bien, garde l'argent, je te le donne gratos, débarrasse-moi de cette terre. Qui c'est cette terre? C'est le peuple juif. Qui c'est ceux qui avaient la monticule? C'est Achashverosh. Achashverosh, depuis longtemps, s'est cassé la tête. Je veux me débarrasser de cette tonne de terre. Je veux me débarrasser des Juifs. On ne sait pas pourquoi. Et Haman, il vient chez Achashverosh, il lui dit, je te présente beaucoup d'argent, donne-moi la permission, je te débarrasse de ces terres. Et je veux les éliminer du monde. Et Achashverosh, il dit, waouh, c'est exactement ce que j'ai voulu toujours. Garde l'argent et débarrasse-moi. Voilà l'histoire de Haman à Achashverosh. Et le roi nous raconte, Achashverosh était encore plus rachat, mais on ne sait pas pourquoi. D'abord, on va essayer de comprendre Haman. Qui c'est Haman? Haman à Agagi. Agagi, c'est le roi de Amalek. Amalek, c'est le fils de qui? Marqué dans Chumash, Monsieur Amalek, c'est le fils de Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils aîné de Esav. Esav, c'est le frère de Yaakov. Esav, le frère de Yaakov, Yitzhak, Avraham Avinu, ça c'est une histoire de famille, une histoire profonde entre Yaakov et Esav. Ils s'entendaient pas. Ils étaient sur deux planètes. Ça veut dire que Esav ne s'entendait pas avec Yaakov. Yaakov, il aurait pu s'entendre très bien. Yaakov, le tzaddik, le prophète, le kadosh, et Esav, il y avait un problème. Mais Esav, il croyait que Yaakov lui a fait tort de lui enlever la bracha. Il croyait qu'il lui a détruit sa vie. À cause de Yaakov, moi, je ne vais pas régner sur le monde. Esav voulait régner sur le monde. Il était destiné pour ça. Il croyait que son frère le roulait injustement et voulait le tuer. Il a raconté ça à son fils Esav, à son fils Eliphaz. Eliphaz, il a couru derrière Yaakov, il voulait le tuer. Yaakov le dissuadait. Il lui dit, ne me tue pas, s'il te plaît. Prends mon argent. Un pauvre, c'est comme mort, tu auras accompli la volonté de ton père. Eliphaz, il avait quelque chose avec son oncle Yaakov, et après Eliphaz, il se mariait avec une femme qui s'appelait Timna, et après, le fils, il est né, il était Amalek. Cette histoire de Timna, elle est très compliquée, cette histoire. Qui c'est cette femme? Rashi raconte, c'est marqué dans le Chumash, Va'achot Lotan Timna. La sœur de Lotan, Lotan c'était le fils de son père, fils de Séir, et la sœur, elle s'appelait Timna. Et après, il est marqué dans Sefer Divrei Hayamim, dans Chumash c'est marqué Timna était la pilegesh d'Eliphaz, la concubine. Dans Sefer Divrei Hayamim, il est marqué qu'elle était la fille de Eliphaz. Comment appelle-t-on la fille d'Eliphaz et la sœur de Séir? Séir, c'est un peuple chivi. Ça n'a rien avec Eliphaz. Rachid raconte en Chumash que Eliphaz, il s'est uni avec la femme de Séir et de ça est né un enfant. Cet enfant était Timna. Et après, c'était sa fille, et Timna est devenue grande. Et après, Eliphaz, il a épousé sa fille. Et de ça, il est né Amalek. En gros, il s'est pas assuré de se marier avec sa fille. Mais bon, c'est pas important. Elle est devenue sa concubine. Et la Gemara nous raconte pourquoi elle s'appelle Timna. Timna, ça veut dire refusée. Elle était refusée. La Gemara nous raconte dans le Sefer Sanhedrin que Timna est venu chez Avraham Avinu. Il a dit, Monsieur, c'est merveilleux ce que vous faites dans le monde. Vous croyez en Dieu, vous êtes un homme droit, un homme gentil. Je suis émerveillé. Permettez-moi de se convertir à votre mouvement. Je voudrais vous rejoindre et je voudrais me remarier avec votre famille. Et Avraham Avinu, il a dit non, je ne peux pas. Bon, elle pouvait le rejoindre dans le mouvement, comme il y en a beaucoup de gens à Tenefesh HaZo'Bacharan. Mais je peux pas me marier avec vous, je peux pas. Et après, la Gemara nous raconte, elle est venue chez Yitzhak. Elle a dit, je voudrais vous rejoindre, je vous marie avec votre famille. Elle a dit, je ne peux pas, je refuse. Elle est venue chez Yaakov, et Yaakov, il a refusé. Après, il dit à Yaakov, il refuse, mais je veux me marier avec cette famille à Esav. Esav a refusé. Et après, il est venu chez Eliphaz. Alors, elle est rentrée par la petite porte chez Eliphaz comme concubine. Et comme conséquence, a donné un enfant à Amalek. Cette Gemara, elle est incompréhensible parce que Timna était la fille d'Eliphaz. Elle était la fille, comme ça, elle est marquée dans le Sefer Divrei Hayamim. Elle est la fille d'Eliphaz. Elle ne peut pas venir chez Avraham Avinu. Avraham Avinu Niftar quand Esaf il avait 15 ans. Et il s'est marié à 40 ans. Après, il est né Eliphaz. Jusqu'à Eliphaz et un enfant, il se passait beaucoup d'années. Comment la fille d'Eliphaz ait voulu se convertir et se marier avec la famille d'Avraham Avinu à l'époque d'Avraham et d'Yitzhak? La réponse, elle est qu'il y avait plusieurs Timna. La mère, la grand-mère, la grand-mère est venue chez Abraham. S'appelait aussi Timna. Une famille refusée, refusée, refusée systématiquement. Elle est venue chez Abraham Avinu. Elle dit, vous pouvez vous convertir, mais je peux pas se marier ensemble. Elle est venue chez Yitzhak, la fille, et après la petite fille. Et à la fin, Eliphaz, avec la femme de Séir, c'est Timna. Elle courait derrière lui, et lui courait derrière elle. Ça, c'est toute une question. Elle a vécu avec elle. Et de ça, il est né une fille, Timna. Après, il se marie avec elle. Et cette femme a mis au monde quelqu'un qui avait la haine contre Yaakov. La haine. Toute la famille, sa mère, sa grand-mère étaient émerveillées par cette famille, mais on l'a refusée, refusée, refusée. Elle rentrait par la petite porte, et après, Eliphaz y raconte à sa fille, tu sais que mon oncle Yaakov a volé la bracha à mon père Esaf. Ils ont volé, ils ont triché. Et mon père, Esaf, il est malade de ça. Et cette fille, elle savait, par sa mère, sa grand-mère, refuser, refuser, refuser. Ces gens-là ne veulent pas de nous. Et pourquoi Abraham ne voulait pas? Il a senti quelque chose qui n'est pas bien. Il a senti dans cette femme, cette famille Timna, ça va pas sortir bien. Et ça n'a pas sorti bien, c'est venu Amalek. Amalek, il a juré, je vais effacer le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, nous sommes obligés. Amalek, on peut pas. Avec toutes les nations du monde, le peuple juif peut se débrouiller. Avec toutes les nations du monde, mais avec Amalek, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui tourne par an. Et eux considèrent, ça tourne par an, et ces gens-là, ils veulent pas de nous. Et c'est injuste. On nous rend injuste. Ce sont des gens orgueilleux. Mais les Timna, ils ont adoré. Adoré. À la fin, ça sortit une haine de folie. Ça, il faut écrire un livre dessus. La haine dans une famille, quand quelqu'un y pense que l'autre, il a privé. Comment un amour, une adoration peut se transformer en une haine, c'est une histoire à part. Ça, c'est Amalek. Mais où Amalek, il a commencé la première fois à embêter les Juifs, après Kriyat Yam Souf. Quand les Juifs ils ont passé Kriyat Yam Souf, le texte, il dit, Chil achaz yoshvei pelachet, az nivalu alofu edom ele moav yochazem morad, namogo kol yoshvei chanaan. Tout le Proche-Orient a tremblé devant les Juifs. Tout le monde a tremblé devant Dieu. Le monde s'est aperçu qu'il y a un Dieu au monde et ce Dieu surveille et il punit ce qui est méchant. Il a puni les Égyptiens. Le monde entier a fait un réveil de folie. La première fois, c'était au moment du déluge. Dieu, il a détruit le monde avec le déluge parce que les gens il faisait n'importe quoi. Et après, encore une fois, ça a recommencé. Encore une fois, les pays de Canaan, Eretz Canaan, encore une fois, étaient pervers. Et on croyait qu'on ne tient pas compte de Dieu, pas besoin de tenir compte. Et la sortie d'Égypte avec ses miracles et le Kriyat Yam Souf comme ça fait trembler tout le monde. Et à la fin, on sera obligé de se soumettre à Dieu. Et ils étaient d'accord. Ils avaient tous peur. On va se soumettre à Dieu. On va arrêter de tuer, on va arrêter de voler, on va arrêter de faire l'adultère. etc. Et Amalek, il ne voulait pas. Amalek, il a dit, tout ça, c'est faux, c'est pas Dieu. Ils ont eu coup de chance, les Juifs. Je vais les attaquer. Il a fait la guerre. Il est venu faire la guerre pour casser l'émerveillement des nations devant le peuple juif et devant Dieu. Il s'agit ici, la guerre d'Amalek contre les Juifs, il s'agit de la question cruciale, fondamentale, est-ce que l'humanité veut entendre de Dieu? Est-ce que l'humanité veut accepter qu'il y a un Dieu et il y a des lois à respecter? Ou comme Amalek s'imagine, au ciel, il y a un chaos. Dieu, il a créé le monde, mais la réussite et la perte dépend pas si on fait des mitzvot ou des averot. Ça dépend du coup de chance. Amalek y croit à la chance. Purim, la fête de Purim, c'est Alchem Hapour, parce qu'il y avait un tirage au sort. Quel jour, quel mois il va attaquer les Juifs? Quel jour j'aurai de la chance? Fondamental, il n'y a pas qu'un peuple Amalek. Il y a une philosophie d'Amalek. C'est que Dieu ne gère pas le monde selon on est gentil ou méchant. Il s'en fout, le bon Dieu. Il a créé des systèmes qu'on appelle le mazal et mazalot. Vous pouvez tromper mon mazalot. Il y a un roue qui tourne, une immense roue, l'univers, le soleil, la lune. Il y a un roue qui tourne et le temps, il tourne. Et quand on a la chance, le bon moment qu'on attaque, le bon moment, on a la chance, on réussit. Qu'on est tzaddik ou racha. Et des fois, il y a des gens qui sont malades, des gens en bonne santé, les peuples réussis, pas réussis, riches, pauvres. C'est des coups de chance. Le bon Dieu, il s'intéresse pas à ça. Il faut monter sur le. Il faut avoir de la chance. Et cette chance, les Juifs, ils avaient de la chance que Dieu les a choisis comme peuple. Il avait de la chance que il y avait Kriyat Yam Souf. Tout ça, c'est de la chance, un coup de chance. Et moi, je vais annuler ça. Et on raconte qu'Amalek était envoyé par Bilam. Et Bilam était un prophète en communication avec Dieu. Et Bilam, il a poussé Amalek. Et Bilam était un Kossem, un magicien. La magie, ça c'est, on peut aller contre la nature des choses. Il y a un coup de chance. Et Bilam, il savait que Dieu a choisi le peuple juif comme peuple et il voulait le détruire. Et il voulait retourner Dieu. Il voulait que Dieu regrette d'avoir pris les Juifs. Et comme Hachem, il a dit, Lo Adam hu veitnechem, qu'est-ce que tu veux, toi, Bilam? Bilam, il voulait expliquer à Dieu qu'il laisse tomber le peuple juif. Le peuple juif n'est pas si tzaddik. Samuel Amidbar Panav, il avait une obsession de chercher les fautes du peuple juif. Il voulait prouver à Dieu que le peuple juif ne mérite pas d'être ton peuple et qu'il les laisse tomber. Il voulait attraper le bon moment pour dire le mot Kalem, détruis-le. Il croyait que Dieu va revenir en arrière. Et comme il disait dans la Vaïssa Meshalo, Oyomar, Lo Ishkel Vichazev, Dieu n'est pas un homme, Vichazev, pour qu'il ment, ou Ben Adam, un fils de nom, Veitnechab, qui regrette. Ahou Amar, Belo Yaaseh, Ahou celui-là, Dieu, Amar, il a dit, Belo Yaaseh, il le fera pas, Vidiber Belo Yekemeno, il a parlé, il va pas réussir. Dieu, il a dit, peuple juif, c'est mon peuple, et je te donne les mitzvot, et je t'aime. Il va pas revenir en arrière. Inebarech la karti, barech lo yeshivena. Et on voit ici que Bilam, il croyait qu'il peut faire changer d'avis à Dieu. Il voulait provoquer un chaos au ciel. Tu te trompais, Dieu. Temporairement, tu les as pris. Ils avaient un bon moment et maintenant c'est fini. Tu le donnes à d'autres peuples, tu donnes à toutes les nations. Et on va revenir un petit peu vis-à-vis de Haman, ce Shabbat qui vient de passer. On a lu l'histoire de la Haftara de. On a vu quand on aurait dû. Haftara de Parshat Zachor. Haftara de Parshat Zachor. Elle est où la Haftara ici? Ah, je n'ai pas la Haftara. Vous avez ici la Haftara. Ici, une seconde. Non, je l'ai trouvée. C'est bon. Je l'ai trouvée. En deux mots. Shaul HaMelech, le prophète Shmuel a dit, Shaul, on va bientôt construire le Beth Amikdash. Il dit que pour construire le Beth Amikdash, il faut nommer un roi, et le roi, il doit affaiblir Amalek, après il doit construire le Beth Amikdash. Il y a trois mitzvot que les Juifs ils ont reçues en retournant d'Israël, la manot le Melech, nommer un roi, l'imchot zecher Amalek, effacer Amalek. Amalek doit être enlevé avant le Beth Amikdash. On verra tout de suite. Et après, construire le Beth Amikdash. Donc, Saoul, il devait faire la guerre contre Amalek. Et il a liquidé beaucoup. Il a laissé le roi vivant, Agag. Il avait un calcul. Il a dit, c'est pas possible qu'on doit effacer un peuple. Ça n'existe pas. C'est pas humain. Et en principe, il a raison, Saoul HaMelech. On tue pas homme, femme et enfant. Ça se fait pas. Il a reçu une mitzvah bizarre. Sauf pour les humains, on n'a pas le droit de tuer des hommes et des femmes et des enfants. Sauf quand Kadesh Baruch Hu, il sait de qui il s'agit. Kadesh Baruch Hu, il sait mieux. C'est Amalek, c'est ou lui ou toi. Il veut nous effacer. Amalek, il est venu tout de suite pour. Aussi avec du kishouf, Moshe Rabbeinu a levé la main pour arrêter le soleil pour qu'il ne trouve pas le bon moment de faire la guerre. Ça marche avec kishouf. Mais ici, dans Shmuel HaNavi, il a dit, tu effaces Amalek. Il ne l'a pas fait. Il a laissé Agag. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est contre ma logique. Je peux pas faire une chose comme ça. Il faut les laisser. C'est aussi des êtres humains. Ce sont des êtres humains, ils pensent autrement que nous. Ils sont différents de nous, mais c'est des êtres humains. HaKadosh Baruch Hu dit, mais celui-là, il veut pas que toi tu restes. Ça, il n'a pas compris. Il est revenu. Au début, il a dit, bonjour monsieur le prophète, j'ai accompli la parole de Dieu. Et il a dit, non, tu n'as pas accompli. Pourquoi tu as laissé Agag vivant? Il a dit, bon, c'est. Si le peuple voulait, alors Shmuel HaNavi, il a dit une phrase, il a dit deux phrases. Ce que nous intéresse le plus, c'est la deuxième phrase. Shmuel HaNavi, il a dit, vraiment Shmuel, tu as fait les animaux, tu as gardé pour faire des korbanot, mieux valait écouter Dieu. Meri, ta rébellion. Khatat, c'est un péché de kesem, de magie. Toi, tu as quelque chose avec la magie, toi. Tu es envoûté par la magie de Amalek. Tu crois en ça. Tu crois qu'il y a Béhémet, une chance et une malchance. Va'avnu trafim hafzar, ma'aste dvar Hashem, tu as méprisé la parole de Dieu. Va'imasra me'melech, Dieu veut plus que tu sois le roi. Alors, Shaul, il a dit, d'accord, j'ai fauté. J'ai transgressé. J'avais peur du peuple. Pardonne-moi. Shmuel a dit, c'est trop tard. Dieu a déjà donné la royauté à quelqu'un d'autre. Et après, Shmuel, il a déchiré le manteau. Il a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Gam netzach Israël, lo yeshaker velo yinachem, et lo adam goul yinachem. Netzach Israël, l'éternité du peuple juif, Lo Yeshaker ne ment pas. Lo Yinachem ne regrette pas. Et lo Adam ou l'Inachem, Dieu, c'est pas un homme qui change d'avis. Est-ce qu'il est en train de dire Shmuel? Netzach Israël, l'éternité du peuple juif, c'est qui? C'est un des noms de Dieu. Dieu, il a beaucoup de noms. Selon ce qu'il fait, Dieu fait beaucoup de choses dans le monde. Et chaque comportement porte un nom. Il y a un nom de Dieu, Netzach Israël, Dieu est éternel. Les Juifs sont éternels. Netzach Israël, l'éternité du peuple juif. J'ai choisi le peuple juif pour l'éternité et je ne change pas d'avis. Malgré si Hashem ils font des avérotes. Malgré que les prophètes ils ont parlé et Hashem il a dit, mon cher Pénou, je veux les enlever. Mon cher Béni dit, tu vas pas faire ça. Mais non. Et Hoshéa, le prophète, il a dit à Kadéjbourg, si tu n'es pas content de ton peuple, tu n'as qu'à prendre un autre peuple. Et à Kadéjbourg, il a crié sur Hoshéa, comme ça tu parles. Tu crois que j'ai un autre peuple? Mais tu n'es pas content, tu critiques. Mais je ne veux pas le changer, je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas d'autre. Je veux que cela s'arrange. Je n'ai pas d'autre. Netzach Israël, l'éternité, Hachem, il a promis. Personne ne peut les détruire. Et si le monde entier s'est réuni pour les détruire, ça ne marchera pas. Et c'est ça qu'est Amalek qui croyait que oui. Et Shaoul n'a pas tué Agag. Pour lui, cette philosophie, et peut-être le peuple juif n'est pas éternel. Il y avait 1 milligramme de cette idée rentrée dans la tête de Shaoul. Ce milligramme de mensonge l'empêchait de tuer Amalek, Agag. Et Shmuel a dit, Netzach Israël, l'éternité du peuple juif, loyer chacun, ça ne monte pas. Kolonechem, c'est la même parole qu'il a dit à Bilham. Kilo Adam ou l'Inachem, Dieu, c'est pas un homme. Dieu, il est plus profond que l'homme. C'est Amalek qui va partir et pas le peuple juif. Si Amalek, il jure, ou les juifs ou moi, eh ben, c'est Amalek qui va partir. Eh ben, Milchama l'Hashem, Amalek, Midordor. Mais Amalek, il a des arguments. Il a des arguments. Il cherche les défauts des juifs. Tout le monde cherche. Le monde entier cherche, c'est de la folie. C'est de la folie, qu'est-ce que les antisémites, ils partent des juifs. Ils mettent leurs jumelles sur le peuple juif. Quand on peut trouver un juif qui se comporte pas bien, ils font de ça une histoire. Mais il y en a, c'est des goyim, plein de gens comme ça. On parle pas de ça. On parle juif. Quand on attrape un juif qui se comporte pas bien, ils font de ça une histoire. On ne supporte pas. C'est une obsession. Cette obsession, Haman, il a. Et Shaul HaMelech, il a dit, tu te trompais. Ça, c'est Haman. Haman Bikesh Lajmid. Mais qu'est-ce qu'on va arriver à Ahasuerosh pour comprendre, parce que nous sommes ici en Perse. L'histoire est que il est marqué dans le livre de Ezra. Que quand le Beth Amikdash était détruit, Yirmiya Navi, il a dit, 70 années après la chute du peuple juif, il y aura le deuxième Beth Amikdash. Et les goyim, ils ont entendu ça, tous les Proche-Orient étaient au courant. Nebuchadnezzar était au courant beaucoup avant, on savait, on respectait beaucoup le prophète Yirmiya. Et après, il est marqué dans la Tanakh, Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, ils ont fait un calcul. Que les 70 années sont terminées parce qu'ils ne savaient pas que c'est depuis la destruction. Ils croyaient que c'est depuis la prise de pouvoir de Nebuchadnezzar de l'Empire de Babylonie qu'on compte les 70 années. Donc, 50 années après le Corban, ils croyaient que les 70 années sont finies parce que 19 années, Nebuchadnezzar, il est devenu le roi 19 années avant la destruction. Et le Beth Amikdash n'était pas détruit. Belshazzar, il a décidé, c'est fini. Le prophète a menti. Les Juifs, c'est pas éternellement, ils restent là-bas. Et maintenant, on va les intégrer. Il a pris les kélim du Beth Amikdash, il a mangé dedans. Et pendant cette nuit-là, il avait le fameux mur et le message du Malach. Daniel, il a interprété. L'Empire Babylone va tomber. Cette nuit-là, Belshazzar, il s'est fait tuer. Et les Perses, ils ont pris le pouvoir. Et après, il est venu le grand Koresh, et les Juifs, ils ont demandé à Koresh, permets-nous de construire le Beth Amikdash. Et Koresh était d'accord. Il a dit, construisez-vous, comme Yeshaya Nevi l'a dit, le roi perse, Meshihi, c'est loin, c'est l'élu de Dieu. pour construire le Betamigdash. Et Koresh, il a dit, allez-y, partenaires, commencez à construire. Ils ont tout de suite commencé à construire. Il y avait trois prophètes, Rav, Ezra, Malachi, une petite communauté. Et le texte dans Ezra, il a dit, il y avait des Shomronim, et il y avait des enfants de Haman qui se trouvaient à Yerushalayim. Haman, il a envoyé ses enfants. Vous allez veiller que les Juifs ne construisent pas Yerushalayim et le Betamigdash. Ils ont envoyé des lettres à Koresh. Ne laissez pas les Juifs construire le Betamigdash, parce que cette ville a fabriqué des rois rebelles. Les Juifs veulent pas se soumettre aux autres rois. Ils ont leur propre philosophie et politique. Et ils font du mal à tout le monde. Ils ont mis un lashon hara de folie. Mein Kampf, ils ont écrit là-bas dans cette lettre. C'était Shamshai, le fils de Haman, qui était le scribe. Ils ont envoyé à Koresh. Et Koresh, il a dit aux Juifs, vous arrêtez les Juifs construire et vous les menacez, vous les massacrez s'ils veulent construire. Et ils étaient obligés d'arrêter de construire. Et après, il est mort. Koresh est devenu Achashverosh, le roi. Et le texte est dit, Achashverosh, le roi, les Juifs de nouveau, ils écrivent des lettres. S'il vous plaît, permettez-nous de construire Betamigdash. Et Achashverosh, il a dit, je laisse construire ou pas. Il a reçu des nouvelles lettres. Pendant toute l'époque d'Achashverosh, il y a des allers-retours. Et dans la lettre, c'était marqué, faites attention, monsieur Achashverosh, monsieur Koresh Achashverosh, si vous laissez les Juifs construire le Betamikdash, les Juifs payeront plus des impôts. Et votre royaume va être coupé en deux. Vous régnez de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Jérusalem, c'est au milieu. Les Juifs, ils considèrent que depuis l'Euphrate, toute la partie ouest de l'Euphrate, c'est à eux. Ils vont vous couper votre royaume en deux. Et vous, monsieur l'empereur, vous régnez sur le monde entier. Votre royaume va être amputé de la moitié. Si vous laissez les Juifs, vous allez avoir que des problèmes avec les Juifs. Achashverosh, il tremblait. Il a gobé ce lashon hara. Il a dit aux Juifs, vous ne construisez pas. Ça, c'est le sens de ce qui est marqué dans le Megillat Esther. Quand Esther est venue sans permission, alors Achashverosh, il a dit, Malak Esther Malka, ma bakashatech. Quel état de monde on va te donner? Jusqu'à la moitié du royaume, on va te donner. C'est quoi la moitié du royaume? Il y a 127 pays. La moitié du royaume, c'est 63 et demi pays. Je vais te donner le Pakistan et le Balochistan et l'Afghanistan. Et il va faire quoi? Il va prendre 200 millions des Pakistanais, il va gérer ce qu'il va faire. Quoi, la moitié des impôts, il y a 10 millions, 10 milliards des impôts des 127 pays, tu prends 5 milliards. Il va faire quoi avec 5 milliards, Esther? Il va acheter du parfum pour 5 milliards. Ça n'a aucun sens. La Gemara nous dit, à Tratia Malchut, c'est le milieu du Malchut, c'est la moitié du royaume. Si tu demandes le Binyan Bet HaMikdash, je te permets pas. Comme ça, Achashverosh, il dit à Esther. Pourquoi Achashverosh était d'accord avec Haman de se débarrasser des Juifs? Il tremblait des Juifs, il tremblait du prophète. L'Empire perse était orgueilleux et Achashverosh mégalo, et je suis le chef du monde et je veux rester le chef. On va pas laisser les Juifs. Les Juifs vont empêcher le monde tourner au rond. Ça va me diminuer. Ça va m'amputer la moitié de mon royaume. Je les laisse pas faire. Haman, il a dit, je te débarrasse les Juifs. Tout de suite, il a dit, garde l'argent. C'était l'obsession. Et il savait pas qu'Esther les Juifs. Mais dès qu'il a signé les papiers, tu vas tuer les Juifs. Haman, il s'assit avec lui. Il était heureux. Il est rentré après sur son trône, dans sa chambre intérieure. Il était heureux. Enfin, j'ai plus rien à craindre des Juifs. Haman va les exterminer et je serai le roi à jamais. Je serai le roi à jamais. Et les Juifs, ils vont pas avoir leur empire. Et il était dans son transe et il voit Esther devant lui. Esther, tu es venue sans permission, tu as un problème. Je te fais tout, mais tu peux tout demander, mais pas le Binyan Beth Amikdash. Ça, c'est le sens Khatia Malchut. Il savait pas qu'elle est juive. Mais lui, c'est ça qui l'a intéressé. Il lui a dit, ça, c'est Ahasuéros. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi un mélange entre Haman et Ahasuéros. Haman, il pense que le Dieu se trompait quand il a choisi le peuple juif. Il y a des gens qui ont une philosophie que Dieu, il a donné son amour et sa préférence au peuple juif au Mont Sinaï pour un certain temps. Ce temps, il a périmé et les Juifs, ils méritent plus l'amour de Dieu. Et maintenant, ce sont des autres qui doivent prendre la place. Ils ont inventé des histoires des prophètes qui disaient en substance, eux, ou leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs adeptes, pour les Juifs, vous avez reçu la Torah, maintenant ça va, dégagez, poussez-vous, poussez-vous, vous ne méritez plus l'amour de Dieu, maintenant c'est à nous, maintenant c'est à nous à hériter votre place. Et cette idée est une idée qui a fait mal au peuple juif depuis des millénaires, Gashmi, Rouhani, déstabiliser le peuple juif. Poussez-vous, sinon on vous massacre. Convertissez-vous. Abandonnez votre espoir. Il n'y aura plus de troisième Beth Amikdash. Il n'y aura plus votre Mashiach. Vous changez votre religion. Vous inclinez. Ça nous a fait mal. Ça nous a troublés. Et beaucoup de Juifs ne pouvaient pas résister. Combien de Juifs y sont assimilés? Ce qui vous peut plus supporter. Ça, c'est Haman. Ça, c'est Bilham. Arrêtez de croire que vous êtes éternellement le peuple aimé par Dieu. La jalousie de Esav vis-à-vis de Yaakov, de Eliphaz, de Timna, de Amalek. Et il croit, en fin de compte, tout ça, c'est Lazare. Et maintenant, c'est d'autres qui méritent. C'est l'autre qui doit prendre la place. Ils sont trop orgueilleux, les Juifs. Ils voulaient pas accepter ma grand-mère Timna. Ils sont suffisants, ces gens-là. On nous accuse de racistes, racisme. Ils peuvent pas supporter quand les Juifs y réussissent. Ça les rend malades. Et Ahasuéros, il veut régner sur le monde. Il y a des mégalos politiquement. Ils ont un style de vie. Ahasuéros, il avait un bon style de vie. Les Perses, ils avaient un style de vie. Et on veut régner, on veut pas partager. Et c'est les Juifs qui vont empêcher le monde tourner en rond. Et voulaient les enlever. Ces deux éléments, Ahasuéros et Haman, il se trouve qu'en Irée, depuis de Khomeini, il est venu, il avait une haine contre les Juifs. L'Iran, c'est un pays, ça coule le miel et le lait, ça coule le gaz et le pétrole. Milliards, tous les jours, il y a 1 milliard qui rentrent sans travailler. 80 millions de gens. Et du gaz et du pétrole sans travailler, ils vont devenir milliardaires. Ils ont pris tout ça, ils ont mis dans les armes. Faut détruire les Juifs, à ce sujet-là. Et les Européens et les Américains, ils ont fait des restrictions. On les a empêchés, c'est d'empêcher à moitié. Ils ont perdu beaucoup d'argent, ils continuaient. Jusque que leur peuple, ils n'ont plus d'eau, presque. Et les gens, ils disent, mais ils sont fous. Mais tous les milliards que tous les jours écoulent, mais où ils sont? Ils sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour une obsession maladive. Et ils savaient, Haman, il faut détruire. Et ils étaient en train de, avec des ruses, ils voulaient la faire. Ils voulaient la faire, la bombe atomique. Ils auraient fait la bombe atomique. Ils auraient fait comme les Plishtim. Ils auraient dit aux Juifs, vous quittez maintenant. sinon on vous fait sauter. Et les Juifs auraient dit, alors nous, on vous fait sauter aussi, alors que les deux, d'accord? Contre la folie, Tamot Nafshim Plishtim, et peu que ni vous ni moi. Comme il disait, et toi tu auras ni moi j'aurai. Comme les deux femmes devant Shlomo HaMelech. Prenez l'enfant vivant, coupé en deux. Eh bien, j'aurai pas mon fils, tu n'auras pas ton fils. Ça, c'est contre la folie et pousser jusqu'au bout. Tof, qu'un dur monde. C'est marqué Hippilpour, Haman, Hippilpour ou Agoral. Il croyait, quand il a vu que les dés sont tombés sur le mois d'Adar, il était content. Parce qu'Adar, c'est la malchance pour les Juifs, leur maître Moshe Rabbeinu, le Sroud de la Torah, il est Niftar, le mois d'Adar, c'est une mauvaise chance. Tout dépend de la chance pour Haman. Et c'est tombé sur le 13, parce que Moshe est Niftar, le 7 Adar. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, les 7 jours de deuil de Moshe sont terminés. Donc le Sroud est terminé comme Metushelach. Quand Hachem, il a dit, une fois que Metushelach, il meurt, eh ben, ils n'auront plus l'homme qui va protéger. Après, il a laissé encore 7 jours. Il est chez Rachid dit, Dieu, il a laissé encore 7 jours de deuil de Metushelach. Le Sroud, il est encore là, si on peut faire encore Tshuva. Et 7 jours étaient finis, le Maboul est venu. Aman, il a dit, 7 jours après la mort de Moshe, ça s'estompe, c'est le bon moment pour attaquer. Il était content. Il était content. Il croyait. Et tout ça, c'est un coup de malchance et de chance. Ça c'est Haman. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là, il regarde les choses, et il manipule les choses. Je vais lire un petit peu. Il y a une Mishnah dans Maseret. Ah, d'abord, on va faire un petit peu Charvona. On va lire un petit peu Charvona. Gam Charvona, Zachour Latov, on dit. À la Chajou Hanarour, quand on lit la Megillat Esther, on dit, Begam Charvona, Zachour Latov, qui sera béni. Qui est Charvona? La Gemara nous dit dans Bavli, Charvona, Bota et Tzahaya. Quand Achashverosh, il a décidé de détourner, d'exterminer les Juifs, il était à côté Charvona. Les 7 conseillers, et il a fait comme ça avec la tête. C'est bon, monsieur Achashverosh. Il était d'accord de exterminer les Juifs. Tarasham Rusha. Et quand Achashverosh, il a aperçu qu'Esther et les Juifs, il est sorti de la pièce, il est sorti dans le jardin, il savait plus à mettre à la tête. Esther est juif. Haman, il veut tuer les Juifs. Et ma femme, elle est juive. Je fais quoi? Si je suis Haman, je vais tuer les Juifs et j'aurai plus le problème du Beth Amikdash, mais je vais perdre ma femme. La femme la plus belle, je vais pas rester sans elle. À part ça, elle me justifie que je suis le roi. Parce que lui, c'était ma palefrenier, c'était un alphabète. Il est devenu le roi par hasard parce qu'il se marie avec Vashti, la princesse de Babylonie. Les gens, ils ont dit, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes le roi? Eh bien, je suis le mari de la princesse. Mais une fois qu'il a tué Vashti, il n'avait plus de justification. Les gens, ils ont dit à Achashverosh, dégagez. Vous voulez se marier avec une princesse? Il est tombé sur une femme qui ne voulait pas dire qui elle est. Elle était tellement belle, il ne pouvait pas dire non. Chaque jour, il rendait fou. Esther, dites-moi qui vous êtes. Elle ne m'a pas dit. Le jour qu'elle s'est dévoilée qu'elle est juive et qu'elle est la petite fille de Shaul HaMelech, il était content. Elle est la fille de Shaul HaMelech. Elle est princesse. Ça justifie que je suis le roi. Mais seulement elle est juive. Maintenant, je vais la tuer. J'ai eu des problèmes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter Esther. Je vais tuer Haman. Mais si je tue Haman, eh bien, les juifs, ils vont construire le Beth Amikdash après. Et ça va me couper la moitié de mon royaume. Et ma femme, elle est juive. Alors, je peux les contrôler, les Juifs. Et c'est ça qu'il a fait, d'ailleurs. Il a mis des impôts. Et ces impôts, il a demandé à Ezra Sofer, ramasser ces impôts des Juifs. Et les Juifs étaient obligés d'être soumis. Sur le mur de Jérusalem, ils ont construit la ville de Shushan comme symbole que vous êtes soumis au roi perse. Et les Juifs étaient d'accord. Il a encaissé, il a obligé les Juifs à payer des impôts. On est soumis au roi, ils ont juré fidélité à après à Dariavès qui a permis le deuxième Beth-Amikdash. Tout de suite, ils ont construit le deuxième Beth-Amikdash. L'histoire de Pourim a construit le deuxième Beth-Amikdash, mais je veux revenir à Harvona. Ahasuerus, il est sorti dans le jardin, il a dit, je tue qui? Je tue Haman. Et j'ai les suivantes, Esther ou le contraire. Il savait pas. Et la Gemara raconte Ahasuerus, mais la c'est un homme qui tous les jours il changeait d'avis. Au début, il a tué Vashti pour faire plaisir à Haman, il a tué sa femme pour faire plaisir à son ami. À la fin, il a tué son ami Haman pour faire plaisir à sa femme Esther. Plein de contradictions. Et il savait pas qu'est-ce que je fais. À ce moment-là, Hatach, il est venu. Il a dit, vous savez, monsieur le roi, Haman, le Mordechai, Asher Dibartov, Alamelech, Omed, Bebet Haman, d'avoir Hamishimama, vous savez, il a préparé une potence pour pendre Mordechai, qui a sauvé la vie au roi. Mordechai m'a sauvé la vie, je me rappelle, on m'a voulu m'empoisonner, Esther m'a parlé, elle m'a dit que Mordechai et Haman, il a fait une potence hier pour pendre Mordechai. Pourquoi? Ah, parce que Mordechai, c'est celui qui m'a sauvé la vie, qui m'a averti qu'on veut me tuer. Donc si Haman, il veut tuer Mordechai, ça veut dire que quoi? Que Mordechai, il sait qu'on veut me tuer. Donc Haman, il veut me tuer. Donc c'est vrai ce que j'ai rêvé que Mordechai, que Haman, il veut me tuer. Alors donc c'est dangereux pour moi. Alors Tlou Alav, tue Haman, et la machine se mit contre Haman, et après tout l'Amalek s'écroulait. Les Juifs ont pu construire le Beth Amikdash. Et sur cette intervention de Harbona, on dit Zachor Latov qui sera béni. Mais c'est un grand voyou. Mais au bon moment, il a tourné la veste. Pourquoi il a tourné la veste? S'il était avec Ahasuerus. Sur ça, on dit, Harbona, Zachor Latov, le mot Zachor Latov appartient à Elianavi. Elianavi, Zachor Latov. Elianavi lui a soufflé ça dans les oreilles. Il dit ça maintenant à Ahasuerus. On va dans tout le chasse, et quand les Juifs sont en danger, Elianavi vient souvent déguisé en goy, en ami du roi, il lui souffle pour sauver les Juifs. Il y a beaucoup de marottes comme ça. Afshila, Dafnon, Chet, Barachot, il y a beaucoup de marottes. Elianavi, il est venu, il a dit à Arona, vas-y, vas-y, dis au roi qu'il va pendre Haman maintenant. Il est intervenu au bon moment, et après, il a penché. Et ça, c'est quand on dit Harbona Zachor Latov, ce qui est derrière Harbona Zachor Latov, c'est, il faut savoir que c'est Elianavi derrière qui a fait. Maintenant, on va voir un petit peu Elianavi. Il y a une Mishnah dans Masechet Idiot. Il y a une Masechet dans la chasse qui s'appelle Masechet Idiot, et je prends la dernière Mishnah de Masechet Idiot. Amar Rabbi Yeshua, il a dit, c'est la dernière Mishnah. Amar Rabbi Yeshua, Mekoubalani Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je reçus un kabbalah de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est Shema Merabo, il a entendu de son maître. Rabo Merabo, et son maître, il a entendu de son maître. Rétor de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est Hillel. Hillel a entendu de son maître, Shema Eftalion, Alakala Moshe Misina, il se vient depuis Moshe Rabbeinu, Shein Eliyuba le Tamé ou le Taher, Elianavi ne vient pas pour rendre Tamé Tahor, la Rachek ou le Karev. Il vient pas pour changer une halakha. Alors, qu'est-ce qui vient? On va pas rentrer dans les détails. La Chachamim Omrim, l'eau la Rachek, Karev. Il ne va pas là pour rapprocher ni pour éloigner. Et la sorte Shalom Benehem. C'est pour faire la paix. Je n'ai marina no chicholeach je vais vous envoyer l'ennevi. Avant qu'il arrive le grand jour, et ramener le cœur des parents vers les enfants, le cœur des enfants vers les parents. Elianavi va accompagner Mashiach pour la construction du troisième Beth Amikdash. Troisième Préparation du troisième Beth Amikdash, il faut quelqu'un qui prépare le terrain, c'est Eliyahu Navi. Et il va ramener les enfants chez les parents chez les parents c'est Maître Yaakov, et les enfants c'est le peuple juif. Il va les ramener ensemble. Je lis ici le Pirouche de Rahavat. Alors, je lis vite parce que c'est un peu long. Je vais lire ce qu'il dit. Le passouk avant, ce passouk il est marqué, c'est le dernier prophète qui parle, Malachi, avant que ça s'est arrêté les prophètes, toute l'époque de prophètes depuis Moshe Rabbeinu, tous les prophètes, le dernier prophète c'est Malachi, c'est les dernières trois phrases du Tanakh. Comme ça termine le noir. Zichru Torah de Moshe Avdi, rappelez-vous la Torah de Moshe, mon serviteur. Torah aux mitzvot, que j'ai ordonné au peuple juif, Torah aux mitzvot, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Et à la fin du temps, maintenant il n'y aura plus de prophète, c'est fini, je suis le dernier prophète. Prochain prophète qui va venir, c'est Eliyahu Navi. Je vous promets, je vais envoyer Eliyahu Navi. Il dit le Ravat. Chachamim rim la sot shalom balam, pour faire la paix, klomar, ça veut dire la sot shalom li Israël min haumot. Eliyahu Navi va provoquer la paix des Juifs devant les goyim. Il va arrêter que les goyim nous embêtent. Eliyahu Navi va arrêter que les goyim font du mal aux Juifs. Ou le Vaserotam, il va annoncer Biyat HaGoel, la venue de Mashiach. C'est un jour avant que Mashiach vienne. Je ne sais pas si c'est un jour, une semaine, ou une année, ou 10 années. C'est une façon de parler, peut-être. Il va ramener le cœur des enfants vers les parents. Plomar, il dit le rabbin, plomar, ça veut dire Lev ha'avot v'habanim, le cœur des parents et des enfants. Asher nafal bam moré. Les parents, ça peut être un Israël, ça peut être aussi des parents, chaque génération. Nafal bam moré. Les Juifs ont reçu peur. Mipachat, on a fait peur aux Juifs. Ubanchu et les pauvres et les pauvres. Et ceux-là, ils sont sauvés ici. Et ceux-là, ils se sont sauvés ici. Ipnei tsaratam, à cause des persécutions. Les Juifs persécutés, la peur est tombée sur les Juifs. Ils se sont sauvés ici et ici, chacun à un autre endroit. Yashuv oto hayom ligvurato, le peuple juif va revenir à une puissance. Veyashuvu eile et eile, ils vont revenir un vers l'autre. Vitnachamuze baze, ils vont se consoler. Amen. Vechenihibemeno. Qui l'a raconté? Qu'est-ce qu'il dit le Ravad ici? L'histoire va terminer que les goyim vont arrêter à nous persécuter. Et les Juifs vont revenir forts et ils vont se consoler parce que les persécutions les ont fait échapper ici et là. Qu'est-ce que c'est? Et les pauvres et les pauvres. Baruch Hu, ils se sont sauvés. Le pshat, il est que le peuple juif est devenu démocrate, est devenu communiste, est devenu un peu chrétien, un peu musulman, un peu athée, et a touché les juifs. Les persécutions y ont brisé le peuple juif. Se sont sauvés. Ils ont voulu nous détruire. Ils ont réussi à nous décourager. Et viendra un moment où les Juifs reviennent. Quand Eliyahu Navi intervient, et ils tournent d'une sorte, ils vont revenir les Gvurato. D'un coup, Hachem, il va faire des miracles. Il va faire des miracles que les Goyim ne peuvent pas nous faire du mal. Et les Juifs vont dire, mais Dieu nous a pas abandonnés. On se trompait. On se trompait. Les Juifs qui ont survécu la Shoah, ils sont partis un à gauche, un à droite. Un est devenu socialiste et avant, au 19e siècle, au 18e siècle, découragés, découragés. Pas tous les Juifs restaient toujours des tzadikim, toujours restaient des tzadikim. Mais il y a plein de gens, ils ont fait n'importe quoi. Par découragement, où il est Dieu? Il est où Dieu? On est le peuple choisi, où il est Dieu? Dieu va venir, il interviendra, il t'a pas oublié. Je vais raconter une petite histoire. J'avais un cousin qui était avec sa mère, était avec ma mère à Berkhébel dans les camps. Il avait 5-6 ans, c'était deux cousins, deux jeunes enfants. Et après la guerre, leur mère est venue à Zurich. Il est malade, il est tombé malade là-bas dans les camps. Et le père est parti après aux États-Unis. Hein, il est parti à Ponyvitch étudier. Bah, lui encore, il a des enfants, des petits-enfants religieux et tout. Et notre frère, il est devenu ce qu'il est devenu. Après, il a quitté la maison de son père. Et le père ne savait plus où il est. Et quand il y avait les guerres de 6 jours, 2 semaines après, ce monsieur, le beau-frère de ma mère, il lui a téléphoné d'Amérique. Il a dit, tu sais, mon fils m'a téléphoné hier. Et j'étais content d'entendre mon fils. Où tu es? Il est dans une ville en Amérique. Et le fils, il a dit, papa, je vais te raconter. Aujourd'hui, je remets les tefilines. Il avait tout abandonné. Je remets les tefilines. Père était content et tout. Et il dit, tu sais, papa, je croyais que Dieu nous a oubliés. Alors j'ai tout abandonné. Quand il y avait les guerres de 6 jours, il a dit, mais Dieu nous a pas oubliés. Le NES, l'intervention d'Hachem, qu'il donne de l'intelligence, qui donne du pouvoir, qui donne de la réussite, d'un coup, clic-clac, les gens y croient que maintenant on va écraser le peuple juif. Hachem, il laisse pas. Alors il a remis les tefilines. Cette guerre qui se passe aujourd'hui en Eretz, pas en Eretz, en Iran, il y aurait besoin d'Hachem de retomber. Il y aurait des gens qui vont dire, mais on n'a jamais entendu ça. Ve'yasu b'sonehem kirtzonam. Dans la Megillah, il est marqué que les Juifs, ils pouvaient faire avec leurs ennemis ce qu'ils voulaient. Mais on a vu ça dans la Megillah. Ve'yasu b'sonehem kirtzonam. Ve'rabim me'amei ha'aretz mityahadim ki nafal pachad Mordechai aleihem. Ils ont donné de l'honneur, ils tremblaient devant les Juifs. Ils ont dit, mais le peuple juif, mais on n'a pas vu ça, on n'a jamais vu un truc comme ça. Et un type à Moscou, ça fait 4 ans, il se casse les dents. Depuis 4 ans, il se casse les dents, il ne réussit pas. Et les Juifs, dans 2, 3 jours, ils réussissent. Ils écrasent, ils font ce qu'ils veulent. Tout ça, on a vu une guerre comme ça. J'ai vu ça. Ça va tout de suite. Il y aura toujours des Amalekim qui continuent à chercher le mal, chercher la faille, chercher l'imperfection. Il y aura des gens qui vont dire, Dieu nous a pas abandonnés. Ça fait partie d'un processus de guérison. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est 1400 ans de méchanceté, de mensonges, de manipulation, des faux messies, des faux prophètes, détruire le peuple juif, décourager le peuple juif, que le peuple juif abandonne sa religion, qu'il doute de lui-même, qu'on brise son courage. 1400 années de bourrage, de crâne que le Mashiach, il sera pas chez les Juifs, il sera chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'obsession. Pour les uns, c'est depuis 2000 ans, et pour les autres, c'est depuis 1400 ans. Un bourrage de crâne mondial pour des milliards de gens. Et on n'a pas le droit de laisser les Juifs. Dieu, il a abandonné les Juifs. Il a pris d'autres à la place. Et il y a des juifs qui savent, c'est Shaker, c'est Shaker, c'est Shaker. Jamais Dieu nous abandonne. Mais il y en a des juifs qui ont craqué. Ils ont descendu du bateau trop tôt. Mais ils vont revenir. C'est ça qu'il dit le Ravad. Et l'ennemi va souffler. Il va souffler. Il y en a des fois des rois qui sont comme Ahasvéros. Ils savent pas où est leur tête. Au bon moment, et la Navi vient souffler. Chut. Maintenant, tu aides aux Juifs. Vas-y, va prendre Haman. Au bon moment, on le dit, et on va tuer Haman. Et la machine des Mordechai se déclenche. Et les gens, ils apprennent. Ce qui veut détruire le peuple juif sera détruit. Et ce que nous, tous les Juifs, nous disons la nuit du Seder, Bechol Dor Vador, Omdim Aleinu Lechalutenu. Dans chaque lo echad bilvad amadeinu lechalutenu. Il n'y en a pas qu'un seul qui se levait contre nous pour nous détruire. Et le Bechol Dor Vador, Omdim Aleinu. Dans chaque génération, quelqu'un il s'élève contre nous pour nous détruire. Et là, Kadesh Baruch Hu Merci l'ennemi Adam. Dieu nous sauve. Quand les Juifs ils croient que nous avons une armée, elle est forte, il faut pas croire comme ça que nous sommes forts. L'obétit katra, mais comme on dit, qui vous anoten c'est pas toi, c'est Hachem t'a donné la chance de faire chayil, de réussir, de faire une armée, d'avoir une intelligence, de trouver la chokhma, de trouver le pouvoir, et de rendre aveugles les ennemis. C'est Hachem, il t'a donné. Il faut que les Juifs y comprennent ce cadeau qu'Hachem, il fait. Un cadeau, le Shruyot, Shrutavot, Shrut des Juifs aujourd'hui qui étudient, qui font Shabbat, qui font des mitzvot, tout maasim tovim, même qu'ils ont passé la guerre et tout, et des autres qui donnent leur vie pour le peuple juif, qui mettent leur vie en danger. Le peuple juif est un peuple extraordinaire. De tous les côtés. Chacun, il a un shaykhout avec le peuple juif. Dieu n'a pas d'autre peuple. C'est vrai que des fois, les prophètes étaient fâchés. Sa façon de parler, oui, parce qu'il veut, comme il dit, Moshe Rabbeinu, Amcha venachalatecha, c'est ton peuple, venachalatecha, et ton héritage. C'est ton Asher et Mitzrayim, c'est ton héritage quand quelqu'un, son père, est niftar. Il est détruit, mais s'il laisse un héritage, ça console. Il a voulu que toutes les nations sont religieux, sont croyants et l'écoutent. Les peuples l'ont abandonné. Il y en a un qui n'a pas abandonné, c'est le peuple juif. C'est ton héritage. Si Akadéjbo, il n'est pas content de son monde, mais il est quand même content du peuple juif. Et des gens, ils croyaient qu'on peut se prendre à la place des Juifs. Hachem n'a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'il a juré qu'il va les aider. Ça, c'est l'histoire. On vit une histoire. Et avant le troisième Beth Amikdash, l'ennemi va accompagner Mashiach. Avant la construction du deuxième Beth Amikdash, il fallait construire le deuxième Amikdash avec Ezra, Sopher, Zerubbabel. À ce moment-là, Eliezer il est venu dans la tête de Harvona. Vas-y, tu vas faire la mitzvah maintenant d'effacer Amalek. Maintenant, Amalek reçoit un coup. Comme Yeshua Benoun, il a affaibli Amalek. Après Shaul HaMelech, il a affaibli. Il n'a pas fait bien. Après, c'est David HaMelech. Il a mis l'ordre au Proche-Orient. David HaMelech était bien, mais Kayem affaibli. Et Milchama, l'Hachem, Bamalek, Midor, Dor. Dans chaque génération, il laisse la guerre, il fait la guerre. Il nous protège de tous nos ennemis. Et au peuple juif d'ouvrir les yeux, de comprendre. Et le monde va comprendre. Quelqu'un m'a raconté qu'il était à Paris lundi soir. Je ne sais pas quand ça a été, lundi. Il y avait une manifestation. Il avait tellement peur d'entendre ce truc. Il a pris sa kippa, il l'a mis dans la tête, dans la poche. Après, il a avancé et il a vu des gens avec un drapeau israélien. Il leur a dit, vous êtes juifs? Ils ont dit, non, on est iraniens. Mais bravo les juifs, bravo les juifs. On vous remercie. Grâce à vous, on peut respirer. Il a sorti la kippa, il l'a mis sur sa tête. Il y aura des juifs qui vont mettre la kippa sur la tête et pas que la kippa. Ils vont mettre les tefillines pour faire le Shabbat. Ça va aider beaucoup. Et des goyim qui vont le savoir. Les goyim lisent les livres de Megillat Esther. Le goyim connaît ce Megillat Esther par le goy cultivé. Il connaît le Megillat Esther. Et on leur a raconté, ça fait partie de la Bible, la Megillat Esther. Il y en a un, l'Iran, il voulait détruire le peuple juif. Et c'est Mordechai qui a tué ce Haman. Il y en a qui connaissent cette histoire. Et aujourd'hui, ils lisent la Megillat Esther et ils disent, mais attends, attends, c'est un livre prophétique. Mais c'est un livre prophétique. Mais ce qui marque la Megillah, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça fait 2500 ans, les Juifs, ils ont ce livre. Et aujourd'hui, ça se répète. Les Juifs, ils ont envie d'être prophètes. Ils ont vu la vérité. Ils ont vu le code de la route. Et ça va faire Bezrat Hashem un grand chizouk. Et que l'on tombe Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Bonsoir.